Et ces micros sont bons.
Ça y est, donc l'émission part sur les chapeaux de roue. C'est à vous, Christiane Belœil.
Bonjour, bonjour Fréquence Mistral et bienvenue pour le Jardin des mots, ce Jardin des mots de fin janvier qui me permet quand même de vous dire bonne année, plein de grands plaisirs littéraires, musicaux, poétiques, etc. Alors, pour ce Jardin des mots premier de l'année, j'ai le bonheur, parce qu'on va dire ça comme ça, d'accueillir Jean Guillon. Jean Guillon qui est une, oh là là, une très très vieille connaissance, qui est quelqu'un... Et là, il se rétrécit devant son micro. Oui. Mais non, papy, t'es pas si vieux que ça.
Si, si, je suis très vieux. Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Alors, nous avons un imitateur, un conteur, un poète. Bienvenue, Jean.
Merci, et bonjour.
Et une petite parole de présentation que nous allons faire en musique.
Eh oui.
Eh bien voilà. Alors Jean, pourquoi ce choix ?
Eh bien parce que c'est drôle et qu'on a la présence du public. Et on imagine ces deux grandes cantatrices, Elisabeth Schwarzkopf et Vittoria de Los Angeles, en train de faire les clowns sur scène. Et moi, je ne suis pas une grande vedette, je ne suis surtout pas cantatrice. Et je m'identifie à faire le clown sur scène. C'est trop beau.
Alors, je vais vous raconter une petite histoire. La première fois que j'ai vu Jean, alors Jean Guillon est conteur. Voilà. On va dire ça comme ça, hein, ça résume bien.
Oui, une carte de visite tout à fait convenable.
Bon, il est à Marseille et il y a presque une vingtaine d'années, on m'avait dit, il faut que tu ailles entendre Jean Guillon. Oui, d'accord, où, comment Alors, si tu veux entendre Jean Guillon, il faut aller au marché aux puces.
À Marseille.
À Marseille, bien, bon, marché aux puces, je connaissais un peu. Hein. Et puis, je me baladais entre des grands sacs de farine et d'épices diverses et variées, des meubles, des fringues un peu en vrac, etc. Et puis, je cherchais, je ne voyais pas de Jean Guillon. Et puis, je suis rentrée sous la halle, là, et l'impression de voir une bulle de silence, et avec un air un petit peu... trouble, quelque chose de très bizarre se passait là. Et là, assis sur un tapis, tout habillé en blanc, avec une paire de moustaches qui font quand même la renommée de Jean Guillon. Blanche aussi, c'était peut-être un peu moins blanc à l'époque. Et un panneau, un écriteau, conteur. Et les gens là, qui venaient aux puces, mais qui venaient aussi pour voir Jean, passaient, s'arrêtaient, etc. Et il y avait deux nanas, deux petites jeunes femmes, un peu à l'époque, on avait ces gros talons compensés qui... Ovez-moi-le, lui. Non, mais elle n'a pas honte. Oh. Eh bien, elles ont fini assises et Jean nous parlait d'une fourmi à ce moment-là. Oui. Et je m'en rappelle comme si c'était hier.
C'est gentil. Merci, Christine. Non, mais c'était une très belle expérience. J'étais en résidence au Théâtre du Merlan. Et à cette époque-là, le directeur était Alain Liévaux. Et il avait organisé, entre autres, ça sur une année. J'étais tous les dimanches, je venais au marché aux puces. Et j'avoue que ça avait été... Et il y avait aussi, bon, ces jeunes filles, des enfants, et puis aussi...
Des anciens.
Ah oui. Des vieux messieurs avec en manteau, parce que c'était l'hiver, et qui se tenaient debout, légèrement à distance, mais avec des oreilles immenses, qui captaient tout, et c'était un bonheur. C'était vraiment une très belle expérience, il est vrai.
Voilà, donc moi, je l'ai découvert comme ça. Et alors, comment Jean Guillon est-il arrivé au conte ? Est-ce indiscret ?
Ah ben c'est une trajectoire tout à fait... Chaque conteur a une trajectoire individuelle et particulière. Pour ma part, j'étais à ce moment-là, car j'ai fait de nombreux métiers avant de comprendre que celui-ci était le mien, j'étais astrologue, oui, voilà. Et je jouais de la fanfare avec une bande de farfelus et de très bons amis, que j'ai toujours d'ailleurs, et qui avaient inventé un cirque. Nous sommes dans les années 70, hein. Et une vague tournée est prévue pour ce cirque qui s'appelait les Frères Gulliver. Et un des piliers, un des membres, décide de ne pas partir. Donc il manquait un homme sur les trois hommes responsables de la tournée. Et tout naturellement, le copain qui faisait partie de l'équipe est venu me voir et m'a dit « Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton astrologie ? Viens faire du cirque avec nous. » Et j'ai dit « Ben bien sûr, pourquoi pas ?» On a mis avec mon épouse de l'époque les affaires dans la cave des parents. Et on est parti. On a acheté un autocar, un autobus avec un chèque en bois. Mais ça, il ne faut pas le répéter. Il ne faut surtout pas le dire à la radio. Quoi qu'il y a de ça bien longtemps.
La prescription.
Prescription. J'en fais plus, c'est promis. Et puis voilà. Et on a vécu une vie de rêve parce que nous vivions... On imprimait nos affiches sous chapiteau en sérigraphie, avec la date, on demandait la permission et on pérégrinait comme ça de ville en ville. Et c'est là que j'ai compris que mon métier était sur la scène. Alors ensuite, c'était l'histoire de la fourmi et de la cigale, mais celle de la fontaine. C'est-à-dire que quand l'été s'est terminé, le cirque comme ça à l'arrache, c'était difficile parce qu'on n'avait pas de chauffage. Donc, l'autre, ils sont tous partis. Et puis, ils m'ont laissé avec le bus parce que c'est moi qui avais le permis poids lourd. Donc, je conduisais à la maison à Aix-en-Provence, tout seul. Alors, je me suis garé à côté de la piscine d'Aix parce qu'il y avait une douche à côté. Donc, c'était pratique. Et j'ai vécu l'hiver à me morfondre. Au sortir de l'hiver... Celle qui était mon épouse a voulu divorcer, et je la comprends. Et nous sommes restés d'excellents amis. Et c'est vrai. Et quand les copains sont revenus avec plein de projets, je leur ai rendu la clé du bus. J'ai dit, moi, je continue tout seul. Parce que la vie de groupe, c'est pas mon truc. Et à cette époque, il y avait à Aix les saltimbanques. Au mois de mai, c'est-à-dire pendant 3 jours, la ville d'Aix était envahie par les saltimbanques. Les directeurs étaient Charles Nugue et Jean Digne. Et je vais les voir, je leur dis, si je faisais le compteur, vous accepteriez avec un tapis sur le cours Mirabeau ? Ils m'ont dit, mais bien sûr. Et j'ai commencé à faire le compteur. Voilà. Alors évidemment, c'est une très jolie histoire, mais qui, si on la regarde d'un point de vue, d'un œil un peu professionnel, est un peu légère. Et je m'en rendais compte par chance. Donc au bout d'un moment où je me disais que mon discours était parfois un peu savonneux, j'ai arrêté, j'ai voulu prendre du recul. Là, j'ai toute une démarche personnelle avec voyage en Inde, etc. Et au retour, bon, allez, j'enseigne le yoga, je me prends un peu au sérieux. Et puis une amie me dit, tu nous casses avec ton yoga. Et puis hop, j'ai recommencé à raconter des histoires. Et c'était à l'époque en Avignon, avant, enfin aux prémices d'Avignon Public Off. Si vous voulez faire des dates, vous le saurez comme ça. Et je m'étais mis dans le jardin agricole Perdiguier, qui est en bas de la rue de la République. Et il y avait que moi. J'avais demandé autorisation à la mairie, je mettais mon tapis. Je mettais un carton sur la grille, j'écrivais le compteur et dans le square. Et le compteur est dans le jardin. Et comme il n'y avait pas d'affiche avec la mienne, vous réalisez avec Avignon maintenant, hein, faites la différence.
Un petit peu, oui.
Ah, ça veut... Et j'ai joué à la manche et je me suis fait un pognon fou. C'est la seule fois de ma vie où j'ai gagné des ronds en Avignon. Mais auparavant, j'avais quand même pris des cours. Parce qu'effectivement, quand on est sur scène, il y a des choses qu'il faut savoir. On a beau avoir l'enthousiasme est... Et donc, j'ai suivi des cours particuliers avec Nita Klein, qui est une tragédienne qui donne toujours des cours en ce moment, à Paris. Donc, j'allais à Paris une, deux fois par mois. Hop, je me tapais le trajet, je revenais. Et puis, je travaillais. Et voilà. Et là, ça a été une vraie formation, parce que c'était une vraie relation de maître à disciple, quoi, une relation de tradition. Et puis, depuis, ça continue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ?
Alors oui, mais vous savez bien que dans le Jardin des mots, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Quelle est la source de cette... quel est l'imaginaire de Jean Guillon ? Où est-ce qu'il va chercher ses...
Où est-ce qu'il va chercher son imaginaire ?
Où est-ce qu'il va chercher ses histoires ?
Ça, c'est une chose... Bon, il y a... on va partir par ce qu'il y a de plus évident, hein, la forme. Mm-hmm. Alors, il y a des contes traditionnels, il y a des textes de littérature, comme Giono, comme Mistral. Et puis, il y a les histoires que j'invente. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par les contes traditionnels. Parce que pour moi, c'est très important. Parce qu'un conte traditionnel, vous le mettez dans n'importe quelle bouche, même mal raconté, il y a quelque chose qui passe. Parce qu'il y a quelque chose dans les contes traditionnels qui dépasse tout le monde. Alors, ça m'a interpellé, cette chose-là. Et la première chose qui apparaît, c'est le ternaire. Il y a toujours trois. Mmh. Trois allées, trois retours, trois personnages. Il y a toujours ce ternaire qui se promène dans les contes traditionnels. Il se repère assez vite. Et il me semble, mais je n'en suis que là pour le moment de mes recherches, il faut certainement gratter un peu plus, il me semble que ce ternaire recouvre toute l'expérience humaine, parce qu'il veut dire l'état de veille, l'état de rêve, et l'état de sommeil profond, qui sont les trois états que nous traversons tout au long de l'existence sur Terre. Et là, nous retrouvons un ternaire qui fait des contes quelque chose qui appartient aussi bien au rêve qu'à la veille et au sommeil profond.
Et en cela, on peut dire que le ternaire nous ramène à l'unité, donc.
Mais
à
alors
l'être.
Voilà, nous y venons. Nous y venons. Plutôt que l'unité, je dirais le nom d'eux. Ce n'est pas qu'une coquetterie de langage.
Pareil, oui.
Ce n'est pas qu'une coquetterie de langage. C'est parce que le nom d'eux désigne quelque chose, tandis que l'unité reste identifiée. L'un reste identifié. Donc ce n'est pas qu'une coquetterie de langage.
Nous partons dans un terrain extrêmement...
C'est ce qu'il y a derrière. Hein.
C'est
ce qu'il y a derrière. Hein. On ouvre la porte, là.
Voilà, et après on ne sait jamais
alors,
ce qu'il y a derrière la porte.
Ce nom d'eux... À propos des contes, comment existe-t-il ? Eh bien, à mon sens, le conte... Mais ça fait chier, j'ai l'impression de pontifier, là. Pourquoi vous me poussez sur ces horreurs, là ?
Enfin, tu as ouvert la porte, maintenant voilà. Essaye de ne pas nous la claquer au nez.
Ah, surtout pas, non, mais j'ai enlevé mes chaussures pour rentrer pieds nus, voilà. Parce qu'on confine le sacré, c'est-à-dire le moment où le conte est raconté. Pour moi, c'est ça, les contes. C'est quand il est proféré. Il faut donc un conteur, une histoire et un public. Hop, on retombe
sur le 3.
Mais au moment du conte, le nom d'eux, c'est ce qui existe entre le conteur et son auditoire. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux noms d'eux. Ça, c'est le moment béni des contes. Et vécu par le conteur, enfin, chaque fois que j'ai pu l'éprouver, grâce à Dieu, et je ne sais pas ce qu'il vient foutre là, lui... Et c'est pas souvent dans une carrière, parce que maintenant, même si c'est une... Enfin, c'est dans une vie, le conteur vit la chose comme je ne sais pas le mot que je vais proférer quand je n'ai terminé un. Voilà, je ne sais pas ce qui va sortir de ma bouche. Et ça, c'est ce que les jazzmen appellent la blue note. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est complètement porté. Ce n'est plus le conteur qui raconte, c'est le texte qui se raconte. C'est même pas le texte, c'est le conte qui se raconte. Et comme je vous le disais, à mon sens, cela revêt toute l'expérience humaine. C'est pour ça que le conte peut s'habiller de mythologie. Et je dis bien s'habiller, parce que la mythologie reste de toute façon un habit d'arlequin. À mes yeux, la mythologie, surtout à l'époque de la Grèce, quand elle avait cette force, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est le journal télévisé de 20 heures, hein ? Rien d'autre. C'est ce qui sert à la population à s'identifier à une culture. C'est tout. Mais pourquoi peut-elle s'identifier ? Parce qu'il y a en dessous cet invisible, ce nom d'eux, qui sous-tend la parole. Et les mythes sont des... Peut-être, et les contes traditionnels en tout cas le sont, sont des véhicules qui permettent cet invisible de devenir, non pas perceptible, mais soupçonné.
Il a très bien parlé.
Eh mais non.
Alors, on va lui demander, pour nous permettre de poser un petit peu cette réflexion, un petit choix de musique quand même.
Écoutez,
avant qu'on aille un peu plus loin.
Moi, je voudrais rendre hommage à l'Inde. Parce que toutes ces belles idées qui portent ma vie, elles viennent quand même beaucoup de cette culture. Voilà. Et vous allez écouter Hari Prasad Chaurasia, le morceau qui vient sera très bien, qui est un flûtiste hallucinant.
Bien, je regrette très profondément que Fréquence Mistral ne soit pas encore en image parce que franchement, nous avons eu ici, dans le studio, un épisode quasi dansé de Monsieur Jean Guillon,
qui était
assez, assez étonnant.
Alors, ça me bouscule, moi, cette musique.
Voilà, et bien, alors cette musique bouscule. C'est vrai qu'entre le duo des chats et ça, nous sommes quand même à quelques années-lumière.
Apparemment. Mais aussi bien les deux artistes qui ont chanté que le flûtiste, ce sont de vrais artistes. C'est-à-dire qu'ils partagent le fond de leur cœur.
Eh bien, une fois de plus, ce que j'aime bien, moi, dans cette émission, c'est après l'écorce, on enlève un petit peu tout ça. Et là, on voit apparaître le cœur. Le cœur, la sensibilité, l'émotion. C'est sûr qu'on ne peut pas montrer ça tout le temps et Soyons privilégiés, Jean. Qu'est-ce qui vous émerveille?
Qu'est-ce qui m'émerveille? Mais tout. Christiane Bellaï m'émerveille.
Oh. Alors ça...
Fréquence Mistral m'émerveille. Un brin d'herbe m'émerveille.
Merci, on croyait, quand tu as dit Christiane Bellaï, Fréquence Mistral, tout de suite on s'est imaginé...
Un prix Nobel.
Voilà, et puis top, un brin d'herbe. Bon. Bon, alors l'Inde. L'Inde,
ah, l'Inde, oui, c'est un petit peu ma patrie d'élection. Hein. Oui, parce que pendant 10 ans, j'ai vécu avec une personne qui faisait de la danse indienne. Nous allions donc, à l'époque ça s'appelait Madras, aujourd'hui c'est Chennai, passer 2 mois par an pour travailler des spectacles. Auparavant, j'y avais vécu pendant 9 mois. Donc tout ça, ça marque.
Forcément.
Ça marque. C'est évidemment la suite d'une démarche, mais je dois beaucoup à la culture de l'Inde, et pourtant j'en connais si peu. Mais c'est-à-dire que c'est une culture fascinante, fascinante, par sa générosité, par son antiquité aussi. Et en Inde, vous avez des gens qui ont 4000 ans de culture et qui sont des enfants. Et ça, c'est un paradoxe qu'on n'est pas prêt de comprendre. Mais ça décoiffe. Hein.
Ça décoiffe, oui. Et alors, bon, ben, on va revenir sur des choses qui sont quand même un tout petit peu plus proches de nous. Et moi, j'ai envie d'entendre parler... Alors, vous savez, il y a plusieurs Jean Guillon. Il y a un Jean Guillon, celui qui comptait à la criée, pas à la criée, n'importe quoi.
Merlan.
Au Merlan. Il y a le Jean Guillon que j'ai trouvé dans une colonne quelque peu Vendôme. Alors, Jean, qu'est-ce que c'était cette histoire-là?
Ah oui, alors là,
d'interpeller les passants comme
exactement.
Ça, franchement.
Alors voilà, chers auditeurs, fermez les yeux et imaginez un pantalon qui est 1 mètre de diamètre, d'accord? Plus le pantalon est large, plus l'homme est fort. Donc, pour que ce soit dans la proportion... Merci. Pour que ce soit dans la proportion, les jambes étaient donc... de ce pantalon m'arrivaient à la hauteur du bout des seins. Je n'ai pas de poitrine, mais c'est le même endroit pour moi.
C'est pareil.
J'avais donc les bras prisonniers dans ce pantalon, et de la ceinture s'élevaient 4 petites colonnes, toujours en proportion, avec un petit toit qui me faisait mon petit théâtre. Et donc je me promenais dans des foules comme ça, et sur le toit rond, il y avait écrit « Les bons contes ». Et c'était donc tout à fait, c'est un spectacle de contes déambulatoires. Je n'en connais pas d'autres, mais je pense qu'il y en a d'autres qui en inventeront de mieux. Et voilà, avec ça, je racontais généralement des petites histoires courtes de Nasreddin Hoxha, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, beaucoup de gens en racontent aussi, et c'est très bien, parce que c'est vraiment très savoureux. Et voilà, ça c'était un spectacle de rue déambulatoire, parce qu'il y a tellement longtemps que je raconte que chaque fois j'ai cherché des formes différentes.
Alors justement, après la colonne Vendôme, on a eu presque le théâtre volant tout de
ah
suite.
Ah ben oui, le théâtre volant est très ancien. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 théâtres volants. En tant que Marseillais, je le revendique, je parle dans les transports en commun, moi, qu'est-ce que vous voulez? Ben oui. Bonjour madame, mon Dieu, vous avez un beau poisson. Hein. Eh ben oui, maintenant c'est difficile d'en trouver au Vieux-Port, vous savez, parce qu'ils viennent tous de Somati. Ah bon? Et oui, enfin bref, on parle dans les transports en commun. Et j'ai simplement transposé cette parole quotidienne en parole professionnelle. Donc on m'a donné un autobus à la ville de Marseille. Ça m'a pris 1 an, du jour où j'ai déposé le dossier jusqu'à ce que je fasse le baptême. Et cet autobus a été le premier théâtre volant. Avec ça, j'ai fait Monts et Merveilles. J'ai beaucoup raconté avec lui dans les Alpes de Haute-Provence il y a de cela fort longtemps. Je suis allé jusqu'à Glasgow à l'époque déjà. C'était en 1990 où c'était Glasgow, capitale européenne de la culture. Et puis, j'ai bourlingué. Et au bout de 20 ans... Des amis mécaniciens me disent, tu sais, le moteur marche bien, mais si tu t'amuses à enfoncer un tournevis dans la carrosserie, tu auras des surprises, c'est tout pourri dedans. Ah, il fallait le changer. Donc, nous sommes en 2004, je fais la demande, et puis c'est une année où il a beaucoup plu à Marseille, et la RTM, la régie des transports de Marseille, avait perdu 2 autobus qui avaient été noyés, sans leurs passagers ni le chauffeur, mais ils étaient foutus. Et Mercedes avait retardé ses livraisons, donc ils n'avaient pas de bus à me donner. Et j'étais bien embêté. Et avec mon épouse, nous assistons à un pince-fesse, je ne sais plus ce que c'était, où il y avait des autorités. Et mon épouse revoit un vieux copain de bateau, elle, qui lui dit « Qu'est-ce qu'il fait ton mari ?» Eh bien, il est embêté parce qu'il n'a pas de bus. Eh bien, lui dit ce copain, qu'il vienne me voir. Et cet homme-là était à l'époque, il s'appelle Pierre Reboux, grâce lui soit rendu au ciel. Il était directeur de la régie départementale des transports et il m'a donné un autocar qui partait à la retraite. Le théâtre volant numéro 2, qui est toujours en vigueur. Mais là,
qui est perfectionné par rapport au premier, quand même.
Nettement perfectionné, parce que j'offre au public d'abord 50 spectateurs, assis plus ou moins confortablement, sur des places d'orchestre et des places de balcon. S'il vous plaît. Un petit théâtre à l'italienne et itinérant.
Oui.
Alors, ça, c'est un autre outil. Qu'est-ce que j'ai comme... j'ai le tapis, toujours.
Toujours le tapis, et puis la roulotte.
Et évidemment, et maintenant, la roulotte. Alors, la roulotte aussi a une histoire, parce que ce serait vraiment dommage.
Qu'une roulotte n'ait pas d'histoire.
Exactement. Mis en scène, je raconte un spectacle avec un texte de Charles Dickens qui s'appelle Marigold. Et Marigold est un texte que Dickens avait écrit lui-même pour le raconter. Parce qu'il gagnait plus de fric avec les spectacles qu'il donnait qu'avec ses bouquins. Il racontait devant 2000 personnes, il y a 200 ans. Donc il n'y avait pas de micro. Et 2000 personnes qui étaient suspendues à ses lèvres. C'est un phénomène. Ce texte est l'histoire d'un bonimenteur qui passe sa vie sur le marchepied de sa roulotte à vendre et qui raconte sa vie. Et le texte est, je dirais, rythmé par des passages où il emploie le langage des bonimenteurs que vous avez certainement vu. Alors je vous donne ça, mais en plus je vous donne ça. Et puis ça, alors on fait monter les enchères et vous restez en plus. Cette espèce de langage qui est comme un entonnoir et qui vient donc donner une architecture sonore au spectacle. Donc il me fallait une roulotte qui est l'allure d'une roulotte. J'ai pris une vieille caravane, j'ai acheté une vieille caravane, je lui ai coupé le toit, j'ai mis un toit dans l'autre sens et avec le toit en roulotte, comme vous pouvez imaginer, c'est-à-dire dans le sens longitudinal de la roulotte.
S'il vous plaît.
J'ai enlevé la porte qui était sur le côté, je l'ai mise devant et il y a un petit balcon amovible qui s'installe. Le tout est coloré en deux couleurs, aubergine et tilleul.
Oh, dis donc.
Et alors, bien sûr, il y a le... Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie.
Il y a la petite cheminée parce qu'il y a un poêle Myrus dedans.
Ah, en plus.
Et ouais.
En plus. Alors, c'est peut-être un petit scoop quand même, mais cette roulotte, on va la découvrir au mois d'août, puisque Jean va itinérer sur le département, sur 13 communes différentes. Rencontre de la parole, nouvelle version quand même. Voilà, donc c'est pour ça que le petit clin d'œil perfide à la roulotte... Et puis voilà.
J'ai ce décor, mais devant, je peux jouer ce que je veux.
Tout à fait.
Et je ne m'en prive pas.
Et donc, maintenant, on va un petit peu parler de répertoire quand même, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des petites choses qui se faisaient autour de Giono, des petits trucs qui m'intéressent beaucoup. Mais aussi.
Christian Belay, vous avez les oreilles qui traînent dans les coulisses.
Toujours.
Oui, j'ai retrouvé, parce que je l'avais oublié, puis retrouvé, puis adoré, un texte de Giono, qui est un édité à part, qui s'appelle « Il n'y avait plus qu'à marcher ». Vous connaissez ce texte ? Ah, c'est un monument. Et alors, ayant questionné Sylvie Giono, j'ai appris qu'il avait été écrit pour le journal Le Provençal en 1960. Et si, franchement, on fait un peu attention à ce qui avait pu paraître dans ce journal à cette époque et ce que l'on voit écrit dans les journaux, tous journaux confondus aujourd'hui, il y a une différence. Il y a vraiment une différence. Donc ce texte m'ayant nourri, je l'ai lu, relu, encore lu, j'ai voulu le partager avec le public.
Thank you.
cette musique, eh bien, parce que ça montre l'espace immense qui peut exister entre ce qui paraissait dans les journaux en 1960 et ce qui paraît dans les journaux aujourd'hui. Bon, excusez-nous, confrères journalistes, qui êtes aussi des gens qui vous occupez d'actualité, mais voilà, on en est là aujourd'hui. C'est Lagardère qui fait imprimer, c'est rien d'autre. Ceci posé, le texte de Giono m'a tellement nourri, m'a tellement rempli que j'ai voulu le partager. Et pour cela, j'ai demandé à un ami de longtemps, avec qui je suis complice, et déjà sur d'autres spectacles, qui est batteur, il s'appelle Samuel Bobin, que nous le faisions à deux. Et on a créé ce texte, et il sera dans la tournée que Christiane Belleuil a présentée.
Tout à fait. Et Giono, alors Giono, la Provence, l'Inde, les grands espaces, mais vous êtes un homme protéiforme.
Comme tout un chacun, comme tout un chacun. Nous sommes traversés par des milliers de personnalités par jour, par seconde. Si on est un peu attentif, on se dit que, mais mon Dieu, quelle richesse nous avons.
Oh, on est non. Ouais, ouais. Mais sors de mon esprit, là. On se dit ça aussi, parce que parfois...
La pensée piétine notre âme.
Oh, c'est joli, ça.
Bah, c'est clair. Mm-hmm. Ça a l'avantage d'être clair à mes yeux.
Bien, alors, continuons un petit peu sur le répertoire. Est-ce que vous racontez des contes indiens ?
Oui, des contes et des anecdotes que j'ai pêchées là-bas. Des contes traditionnels, bien évidemment. Il y a une histoire drôle, il y a... voilà, oui, ça j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, j'espère que le public aime, c'est surtout ça. Et voilà.
Peut-être qu'il y a un pont là par chez nous, non ? J'ai pas entendu parler d'une histoire avec une certaine Alexandra.
Ah oui.
Me semble.
Alors effectivement, avec le Théâtre Volant, je me suis promené dans le département depuis deux étés là, avec une complice qui a fait un spectacle sur Alexandra David-Nel, qu'elle a appelé ADN. C'est les initiales, et c'est un magnifique spectacle où cette comédienne très talentueuse est assise et elle joue Alexandra, qui est en méditation et qui arrive à se transporter à travers le temps et qui rencontre le public. Et le pari tient formidablement bien.
D'accord.
Parce qu'elle aborde du coup... les sujets que Alexandra David-Nel a abordés, mais aussi la proximité avec la science.
Mmh, bien
et,
sûr.
Évidemment.
Bien sûr.
Voilà quoi. C'est un très très beau spectacle. Et effectivement, Alexandra David-Nel. Alors, il se fait que dans les années 70, justement, après cette expérience de cirque dont je vous ai parlé, j'ai connu une période d'errance où je voyageais en stop avec mon saxophone. Et c'était tout, et bien suffisant. Et un jour, j'ai atterri à Digne, je me suis dit, il faut que j'aille voir la maison que j'avais déjà vue, Samsung Zong. Et évidemment, à l'époque, Marie-Madeleine Perronnet était encore plus pétillante qu'aujourd'hui. Et elle allait jeter les cendres d'Alexandra David-Nel dans le Gange, parce qu'elle venait de disparaître depuis peu. Et elle m'avait invité à venir. Mais comme je n'avais pas d'argent, j'avais décliné.
Voilà.
Ça avait été. Je ne pense pas qu'elle s'en souvienne aujourd'hui, parce que ça quand même remonte loin. Mais surtout à l'époque, je me rasais la tête. Et j'avais une allure pas possible, encore plus que maintenant, vous imaginez. Donc,
oh là là, qu'est-ce que ça devait être ?
Une horreur.
Ça alors.
Une horreur.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Jean Guillon ?
Il raconte des histoires.
Ah oui, non, mais ça, j'avais compris, dis donc. Mais où ? Quelles histoires ? Pour quel public ?
Ben voilà.
Quel projet ?
Voilà. Alors, donc, il y a ce nouveau spectacle. Donc, il n'y avait plus qu'à marcher. Alors, ce texte commence... Je vais vous donner la première phrase parce que ça donne le diapason. Quand la terre s'éteignit, les dieux qui volaient autour vinrent se poser sur elle.
Ah oui.
Voilà, notre filiation. Et puis Giono va très très loin. Et évidemment, il passe en revue les grands paysages, la campagne de Mantoue, la Drôme provençale, etc., etc. Et ouf, c'est un très très beau texte. Je dirais un texte philosophique et poétique.
Ben, comme Junot, quand même.
Voilà.
Hein,
la
Junot.
Force de son écriture. Oui, c'était... Donc ça, c'est, je suis heureux de le partager, d'abord parce qu'on a réussi à bien s'entendre avec Samuel, Samy, et qu'on a construit une structure qui tient la route. On l'a donné une fois devant des amis, bien sûr. Et bon, il fera partie de cette caravane. Et puis, il y a un autre projet aussi auquel je suis très attaché, et avec lequel j'ai la collaboration de trois musiciens, Samuel, donc le batteur, et Alexandre Morier et Olivier Dambeza, qui sont tous les deux guitaristes. Et à tous les trois, ils ont fondé un orchestre qui s'appelle Pumchak. Et voilà, ils vont jouer de la guitare, mais aussi de la clarinette, du ravanathan, qui est un instrument de bohémien indien, un orgue-à-bouche chinois. Enfin, et ce spectacle s'appelle « Le chant des possibles ». Et c'est du chant, chanson qu'il s'agit, mmh, bien sûr.
Bien sûr. Alors peut-être que nous pouvons écouter un petit morceau là, présentement.
Alors, parce que ses
alors
amis,
il faut expliquer pourquoi.
Ses amis, voilà, et... ont sorti juste maintenant un disque avec un vieux cheval de retour.
Oh, il serait ravi, dis donc.
Non, non, mais justement, c'est ce qu'il chante. Non, non, non. Il, à ce niveau-là, il est sans ambiguïté. Et c'est très sympathique de sa part, je trouve. Guy Marchand, qui avec eux a fait un disque qui s'appelle Folk You. Avec, et mes amis ont pris le titre de Kim Capone.
Un jour je dirai à mon cheval, mon ami, mon bel animal, il est temps qu'on se tire loin d'ici, un beau matin sans faire de bruit, on pourrait tomber pour toujours dans le tendre piège de l'amour. Un jour je dirai à mon cheval, allons dormir sous les étoiles, partons tout au bout de la nuit, il est temps qu'on change d'écurie, on pourrait vieillir un beau jour dans le doux mensonge de l'amour. Adieu ma belle, adieu ma belle, adieu ma belle, je m'en vais sous la pluie, la neige et la grêle. Adieu ma belle, je m'en vais. Adieu ma belle, adieu ma belle, adieu ma belle, je m'en vais. Aujourd'hui, je remets ma selle. Adieu ma belle, je m'en vais. Un jour je dirai à mon cheval, mon ami, mon bel animal, allons galoper sur la plage, sous le ciel bleu où les orages, on aura la vue sur la mer, avec le vent dans ta crinière. Adieu ma belle, adieu ma belle, adieu ma belle, je m'en vais sous la pluie, la neige et la grêle. Adieu ma belle, je m'en vais. Adieu ma belle, adieu ma belle, adieu ma belle, je m'en vais. Aujourd'hui, je remets ma selle. Adieu ma belle, je m'en vais.
Alors, si j'ai bien compris, Jean, le guitariste et le batteur qui sont
les deux guitaristes, oui,
les
oui,
deux
oui.
guitaristes et le batteur oui.
sont les... Olivier Dambeza, Alexandre Morier pour la guitare, les guitares, et Samuel Bobin pour la batterie.
D'accord, et donc vos complices c'est sur le chant des possibles.
Exactement.
Voilà.
Oui, oui.
Et alors, après ce chant des possibles,
et ben voilà, le
et
chant
Dickens,
des possibles.
Dickens tourne aussi.
Dickens tourne aussi, oui. Oh, oui, bah oui. Moi, si vous voulez, ce sont des choses qui m'habitent, même si je les raconte pas. Bon, j'ai besoin d'un jour ou deux pour me remettre dans le texte, et puis c'est bon, quoi. Oui, oui, ça, il n'y a pas de problème. Sauf les contes traditionnels que je ne répète jamais.
Oui, mais ça, c'est relativement c'est normal, normal, je oui, dirais. Oui, hein, le conte traditionnel est, voilà. est une base, je dirais, qui est complètement évidente et permanente.
Et spontanée,
c'est ça,
oui,
spontanée.
Oui.
Et que vous racontez toujours, hein, le
conte
en permanence.
Il n'y a pas de...
Alors moi, j'ai envie de vous demander quel serait votre regret, je dirais, aujourd'hui. C'est pas bien de dire ça parce qu'il va me répondre qu'il n'en a pas.
Oui, je dois en avoir, il faut un peu chercher, quoi.
Par rapport justement à une découverte, une création, à quelque chose que vous auriez eu envie de faire et que pour des raisons qui tiennent, je ne sais pas à quoi, moi...
Qu'est-ce que j'aurais eu envie de faire ? Alors oui, c'est une question pertinente à laquelle j'ai une réponse, c'est formidable.
C'est
il va falloir que j'arrive un jour à faire un spectacle sur Marseille. Parce que je suis marseillais et très attaché à la ville où ce corps-là est né. Et quand même, c'est une ville qui a du charme, c'est une ville qui est protéiforme, qui ressemble tellement à la vie, avec sa folie, avec son improbable, son allure bancroche.
Bancroche.
Oui, oui. C'est débraillé, Marseille. Il était tellement vrai, vivant, quoi. Attends.
C'est une très belle ville. Je suis marseillaise aussi.
Ouais, non, mais...
Je vis un peu plus loin, mais c'est
moi,
vrai que c'est une ville
c'est
très
une belle
attachante. Une belle ville, pas au sens de beauté esthétique.
Voilà.
Une belle ville. On parlait tout à l'heure dans la voiture de cette étrange chose qui fait qu'à un moment donné, on se sent d'ici, parfaitement d'ici.
Oui.
Et je crois que vous vous sentez profondément d'ici,
Marseille. Ah ben oui, oui. Et je m'imaginais l'autre jour, disant, mais si j'habite plus là, je ne passerai plus par cette rue, je ne verrai plus ce marchand de tomates, je ne verrai plus ce mendiant, je ne verrai plus ces maisons qui ont l'air de tout et n'importe quoi, plutôt l'air d'un décor de théâtre que d'autre chose d'ailleurs.
Oui.
Et je m'imaginais mal. Ne plus voir tout ça.
Mais c'est normal, en plus.
Et en plus, on le voit avec les yeux du cœur, on l'emporte avec soi.
On l'emporte avec soi, ça c'est bien vrai. Alors, à Marseille, justement, il n'y a pas de lieu qui soit votre lieu.
Ah ben moi, je suis itinérant. Hein.
Voilà, vous n'avez jamais eu cette envie d'avoir un lieu à vous pour y inviter...
Des collègues,
etc.
Oui, bien sûr, non, c'est... Non, d'abord c'est une charge trop lourde. Je suis administrativement incapable d'assurer ce genre de truc. Il faut connaître ses limites. Et puis il y a d'autres qui l'ont fait avant moi et qui le font sans doute très bien ou pas bien, je m'en fous, c'est leur problème. Et puis voilà quoi. Moi c'est l'itinérance. Donc avec le théâtre volant, si vous voulez, quand je me promène avec lui. J'ai quand même 6 heures d'installation, donc je ne vais pas jouer un jour et repartir. Donc je reste une semaine. Si je reste une semaine dans un endroit, je ne vais pas faire que du Jean Guillon. Donc j'invite d'autres artistes et de préférence les gens qui habitent là où je m'installe. Et ainsi on partage la scène.
Alors ce qui signifie que vous avez, telle une petite araignée tissant sa grande toile, dans tous les coins de cette vaste
terre,
on va dire, parce que dire la région, mais non, on pourrait dire la France,
Je suis allé de Glasgow jusqu'à Rome, voilà, le plus éloigné.
Voilà, plus l'Inde en passant quand même.
Ah oui, mais pas avec le théâtre volant.
D'accord. Non, mais moi,
je partage la scène.
Moi, je parlais de tout.
Ah oui, bah sinon, je me suis baladé un peu partout. Oui.
De cette itinérance qui frôle l'exil. Hein, parce qu'il y a ça aussi dans l'imaginaire, itinérance.
Oui.
C'est une autre vie.
L'exil est un mot de sédentaire, ce n'est pas un mot de nomade. Le nomade ne sait pas faire des valises. Le nomade ne sait pas voyager. Parce qu'il ne le sait pas, il le vit. Et quand un nomade doit quitter sa roulotte pour X raisons, il part avec un sac en plastique et la brosse à dents dedans, c'est tout, quoi.
C'est vrai.
Et tout va lui manquer, et forcément.
tout va lui manquer, mais tout lui sera richesse et découverte.
Ah, certes. Ah. Non, mais ça dépend. Ça dépend de lui-même, comment il est. D'abord, vous avez raison,
ça dépend
de l'endroit où il va et de sa complexion personnelle. Oui.
Et vous définiriez comment, Jean?
J'ai beaucoup de mal à me définir.
Non, mais moi, ça m'amuse de vous demander ça.
Je me définirais comme moustachu, voilà.
Moustachu, mais ça, je pense que, une fois de plus, Odile, je vais dire que tu devrais filmer, parce que finalement, le direct est une chose, mais après, pourquoi pas, tu dois avoir de longues soirées, tu pourrais enregistrer tout ça et faire profiter les auditeurs qui deviendraient
des... Pitreries.
Voilà,
des
parce que franchement, c'était vraiment...
En plus, c'est une vraie boutade, parce que les moustachus, généralement, ont mauvaise réputation, et c'est mérité. Parce que ce sont des gens qui rigolent pas, c'est des chasseurs, c'est des voilà, moi je suis moustachu.
C'est des Brassens.
Mais,
je suis désolée.
Là je m'incline. Là, touché, mais pas coulé.
Mais pas coulé, non, mais il en faudrait beaucoup, beaucoup pour couler là.
Fluctuate l'énergie. Oh non, pas Paris, non pas Paris.
Alors je ne sais pas si. S'il y a une petite anecdote, une petite histoire...
Je m'étais dit que je pouvais en raconter une. Ah oui, mais c'est une histoire que je raconte assez volontiers. Elle se passe à Marseille, dans un beau quartier, là, le 8e arrondissement. Alors à Marseille, il y a une chose très curieuse qui s'appelle l'accent Jean Beon. Oui, parce que les bourgeois marseillais, qui sont des gens adorables, ça dépend, il y a des gens adorables partout... ont un peu honte de l'accent marseillais. Alors, ils travestissent l'accent marseillais en mettant des E partout. Alors, ça donne Jean Beon. Bonjour, ma Meon. Voilà, ça, c'est l'accent jambon. Donc, ça se passe dans un milieu très aisé, n'est-ce pas? Alors, et c'est un groupe d'amis. Et chaque semaine, ils se rencontrent pour un repas chez les uns, chez les autres. C'est délicieux. Et parmi eux, il y a un artiste. C'est un artiste peintre réputé, marseillais, un bon enfant, et voilà. Et l'année s'écoule, nous arrivons au printemps, et on pense au projet de vacances. Mon Dieu, où est-ce que vous allez, cher ami, cette année? Oh, nous allons à l'île Zanzibar, mon Dieu, on n'a jamais vu, on avait envie de voir ce que serait. Ah, mais quelle bonne idée, et vous? Et l'artiste qui dit, eh bien moi, mes chers, je vais rester à Marseille. À Marseille, moi, d'où? Quelle idée, mais il n'y a rien à faire. Ben oui, justement, j'ai envie de rester à Marseille pour ne rien faire. Oh, les artistes, ils ont toujours des idées improbables. D'accord. Et il s'organise très bien, notre artiste. Il se met au Square Monticelli, là, vous voyez, les quartiers chics. Il achète un journal, un croissant. Il n'y a rien à lire dans le journal, mais alors, au mois d'août, je ne vous dis pas, vous le secouez, il y a les lettres qui tombent. Et ma foi, il passe ce bout de matinée comme ça. Et un jour, où il est en train de faire semblant de lire son journal, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il entend « Bonjour, monsieur ». Il baisse le journal, regarde autour de lui, mais il n'y a personne. Ça l'intrigue. Du coup, il remonte le journal, il laisse les yeux passer juste au-dessus. Ploum, et il voit arriver un pigeon qui parle... Et qui dit « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, » répond l'artiste interloqué. Et la conversation s'engage. Et ma foi, l'artiste est bavard. Le pigeon, lui, il vole au-dessus des toits. Il connaît tous les cancans. Il est au courant de toutes les affaires. Et une véritable amitié se lie. Du coup, il n'achète plus le journal. Il achète deux croissants. Il en partage un pour le pigeon, un pour lui. Et le mois d'août passe comme une flèche. Septembre arrive, les amis retournent, les repas recommencent, et vous, oh, l'île de Zanzibar, c'était merveilleux, etc., etc. Et vous, cher ami, ah, moi, dit l'artiste, je vous réserve une surprise. Ah bon? Non. Mais oui, non, si, non, si, venez vendredi. Le mercredi, il va à Square Monticelli voir son pigeon, il lui explique, écoutez, voilà, je fais un repas avec des amis, vous allez être la vedette. « Venez nous raconter quelques histoires. » Ah, puis j'ai dit « Non, je vous en supplie. Je connais trop ces réunions. Tout le monde caquette. C'est pas ma tasse de thé. Oh, par pitié, au nom de l'amitié qui nous lie. » Bref, le pigeon se laisse fléchir. Il dit « Je viendrai, mais à 11h au dessert. » D'accord. Le repas commence. Alors, cette surprise. Mais il arrive à tenir jusqu'à 11h moins le quart, il lâche le morceau. J'ai rencontré un pigeon bavard qui parle. Ils se foutent de sa gueule. Mais ouais, un pigeon qui parle, on n'a jamais vu ça. Mais ouais, vous verrez. Et puis, sur la cheminée en marbre, il y a la petite horloge dans le globe qui tourne, comme ça. Et 11h sonne. Alors là, tout le monde se retourne vers l'artiste. Le silence s'installe parce que rien ne se passe. 11h02, c'est une pendule à répétition. Ça recommence.
Et toujours rien ne se passe. Une chape de plomb descend sur l'assistance. Mais bon, tout le monde est gêné, oui, évidemment. Un pigeon qui parle, il fallait y penser quand même. Hein.
Et ce sont quand même des gens polis. Peu à peu, la conversation reprend, prout-prout, etc. À minuit, on entend toquer à la porte. Toc, toc, toc. C'est lui. Il se précipite, ouvre la porte. Et derrière la porte, il y a le pigeon qui regarde droit dans les yeux l'artiste et lui dit « Pardonnez-moi, mais la nuit était si belle que je suis venu à pied. »
Merci.
Oui, c'est une histoire de pigeon, quoi.
C'est une histoire de pigeon bavard, oui.
Voilà. Là, je peux m'identifier.
Mais décidément, je radote, hein, je radote vraiment. Mais alors, les mimiques, quel dommage, dommage.
Non, mais j'aime beaucoup parler à la radio parce que, vous avez peut-être remarqué, parfois je ferme les yeux et, chers auditeurs, je m'imagine avec vous.
Alors, puisqu'il est bientôt l'heure de se quitter, je vous laisse une fois de plus le choix du morceau musical que nous allons entendre pour...
Ah voilà, donc on a entendu tout à l'heure un morceau du film Urga, qui est un film qui parle de grands espaces, qui parle de rencontres de deux civilisations, qui parle de mixité dans un pays où... un pays totalement improbable, où les chamans sont encore très très présents, grâce à Dieu. Et le morceau que nous allons entendre est joué par une jeune fille à l'accordéon. Et voilà.
À bientôt.
Ba-da-da-da. Oh.